On ouvre ce magazine avec la revue de presse des hebdos et bah, qu'est-ce qu'il y a, Arlette? Je te trouve bien morose ce matin. C'est quoi? C'est les nouvelles qui sont pires que d'habitude ou tu souffres de fatigue informationnelle?
Bonjour Léo. Non, pas de façon chronique. Et je m'efforce vraiment de vous éviter ce type de fatigue en repérant dans les 5 hebdos que j'explore pour vous chaque semaine les infos les plus intéressantes. Mais c'est vrai que j'ai trouvé la lecture des hebdos cette semaine assez désespérante. Par exemple, dans Télérama, l'invité est le réalisateur roumain Cristian Munziu. Souvenez-vous du film formidable 4 mois, 3 semaines, 2 jours en 2017. Il raconte dans son dernier film et dans cet entretien l'état de son pays qu'il a parcouru un peu désabusé pour projeter son dernier film justement qui s'intitule RMN. RMN, c'est le sigle roumain de notre IRM. Comme beaucoup de pays de l'Est, dit-il, la Roumanie est une zone grise dans l'imaginaire des Occidentaux, qui savent très peu de choses sur notre pays. Alors c'est plutôt gris, la vision de Munziu de son pays. Mais chez nous, en France, la vision vire au noir. En page 13, un article nous révèle que 42 000 enfants sont SDF. C'est un chiffre de l'UNICEF. Ils vivent dehors, dans des chambres d'hôtel, dans des foyers d'hébergement d'urgence. 12 500 d'entre eux ont moins de 3 ans. En page 37, dans un long article intitulé « La guerre des frères », l'historien Andreas Kapler retrace le récit falsifié des relations entre la Russie et l'Ukraine. Pour Poutine, aujourd'hui comme hier, pour Pierre Legrand, Ukrainiens et Russes seraient un même peuple. Des peuples frères? Peut-être. Mais à chaque fois que le cadet veut s'affranchir de la tutelle de l'aîné, ce dernier s'y oppose par tous les moyens. Alors aujourd'hui, avec Poutine, eh ben c'est la guerre. Refermons Télérama sur une note plus optimiste. Le dossier donne la parole à ceux qui changent de voix, voix, V-O-I-E. De plus en plus de diplômés des grandes écoles tournent le dos à des postes en or et se réorientent vers des métiers soucieux de l'environnement. Christian Koenig, membre du collectif Forte, préconise de rendre obligatoire l'enseignement de l'enjeu écologique pour tous les étudiants Bac plus 2 d'ici 5 ans. Il faut créer, dit-il, le cadre qui permette d'embarquer tout le monde et cesser de se défausser sur quelques étudiants, certes très inspirants, mais qui ne pourront pas, à eux seuls, faire bifurquer les écoles, l'économie, la société. Il faut, Yaka, Faucon, ben c'est pas gagné.
Hey, et la une du canard n'est pas plus réjouissante.
Alors c'est vrai, mais au moins les titres sont drôles. C'est déjà ça. Celui de l'édito, par exemple. Les usagers attendent encore la multiplication des pleins. C'est galérien de le dire. J'adore, je me régale à chaque fois, je ne m'en lasse pas. Mais l'article « Cas d'école » n'a même pas trouvé un brin d'humour pour nous faire avaler ce qu'il nous apprend sur les inverseurs de culpabilité, ceux qui justifieraient la décapitation du professeur Samuel Paty. Il aurait froissé ses élèves. Cette expression figure dans le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale. Dans son discours à la Sorbonne, Michaël Paty, la sœur de Samuel, a martelé. On ne met pas un « oui mais » après le mot « décapitation », on met un « point ». En dernière page, un article, le Doha dans l'œil, vous invite à lire le dossier spécial du Canard. Qatar, l'envers du décor pour boycotter la Coupe du Monde en toute connaissance de cause. Des bas-fonds de Doha où les travailleurs immigrés tentent de panser leur plaie au code de la famille qui maintient les femmes dans leur soumission et les homosexuels dans la clandestinité.
8 milliards d'humains, et moi, et moi, et moi.
Eh bien, c'est ce que proclame la une du 1. Nous serons 8 milliards à vivre sur Terre le 15 novembre prochain, selon la dernière étude démographique des Nations Unies. La lecture de ce numéro provoque le vertige des chiffres. Les démographes invités par la rédaction nous donnent les chiffres des projections à l'horizon 2050. La population globale culminerait à 10,4 milliards d'humains. La Chine ne serait plus alors sur le grand ring mondial qu'un poids moyen, affichant seulement 700 millions d'habitants. Et l'Afrique, aujourd'hui sous-peuplée, deviendrait une hyperpuissance démographique avec 4 milliards d'habitants. Un monde singulièrement modifié. Mais, Tout n'est pas si simple. Si on en croit Valérie Golas, je la cite. Ainsi, cela signifie qu'on peut affirmer avec une très grande probabilité que la population va croître de 2 milliards, ou peut-être seulement de la moitié, ou peut-être même du double. Même si dans l'état actuel des connaissances, c'est la valeur centrale qui demeure la plus probable. Un de ses confrères, Hervé Lebras, précise « Une projection ne dit pas ce qui va se produire, mais ce qui nous menace. » D'accord. Bon. Le géographe Michel Fouché, de son côté, analyse les conséquences géopolitiques de la nouvelle donne démographique. Même si, vous l'avez compris, c'est loin d'être une science exacte, du moins les projections ne sont pas certaines. Elles sont tellement soumises aux imprévus, le climat, les guerres, les épidémies. Sans oublier le mouvement No Kid. Laure Nouala, journaliste environnementale, appartient au mouvement des GINK, acronyme de Grain Inclination No Kid, qui affiche clairement leur non-désir d'enfant pour des raisons politiques et écologiques. Elle précise « Je n'ai pas enfanté pour ne pas me sentir responsable d'une autre vie que la mienne dans le futur. »
L'Express s'intéresse à la face cachée du bien-être.
L'édito de Stéphanie Benz ouvre le dossier. Que ce soit le yoga, la naturopathie, l'ostéopathie, les stages de jeûne, la méditation ou même les soins énergétiques, les pratiques bien-être ont le vent en poupe. Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la naturopathie, l'ostéopathie, le yoga. L'absence de contrôle les expose à des dérives. Bien sûr, la répression des fraudes et la mulvilude. La mulvilude, tu sais ce que c'est que
ah
la
non,
mulvilude?
Ah non, pas du tout, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc, la mulvilude et la répression des fraudes veillent, avec des moyens qui apparaissent bien dérisoires par rapport à l'ampleur du phénomène. L'appétit des Français pour ces méthodes ouvre grand la porte aux dérapeutes, en tout genre, avec toutes les dérives que l'on connaît. Renoncement aux soins, retard au diagnostic, arnaques pures et simples, emprise de type sectaire et maintenant glissement vers le complotisme. On continue l'alerte. La face cachée du yoga, toujours plus populaire, le yoga n'est pas exempt de dérives jusqu'au complotisme. Exemple, nous sommes en pleine période d'ascension planétaire, nous assure une jeune femme au téléphone. Il faut que les gens puissent se caler sur ces shifts d'énergie. L'éveil au Kundalini est parfait pour ça. Derrière ce mélange d'anglais globiche et de termes ésotériques, on trouve Johanna, 34 ans, facilitatrice du Kundalini. Plus qu'un simple professeur de fitness, elle se dit capable d'initier les autres à développer leurs capacités extrasensorielles et entend réveiller l'énergie spirituelle et vitale, lovée à la base de notre colonne vertébrale. La pratique est aussi folklorique qu'instagrammable. Ses adeptes sont en général habillés de blanc, la tête enrubannée, et se livrent à des exercices de respiration qui semblent les pousser à la limite de la syncope. Ce n'est pas fini. Attention, ça c'est plus grave. Iridologie magnétothérapie. La naturothérapie dérive d'une pseudo-science. Les professionnels de cette pseudo-médecine sont de plus en plus nombreux, trop selon certains, qui pointent des conseils mal avisés et des excès. Une réglementation s'impose. Alors on termine le cauchemar avec ostéopathie et syndrome de Kiss chez les bébés. Lubi marketing de pseudo-thérapeutes, des praticiens prétendent soigner ce mal imaginaire. Une dérive qui interroge plus largement sur l'utilité de l'ostéopathie pédiatrique. Vous comprenez pourquoi je me sens morose.
La couverture du Courrier international est spectaculaire.
Et elle me redonne le moral. Le Courrier a choisi de publier sur sa couverture un dessin de Morten Morland, paru dans le Times. On y voit une femme qui porte un foulard, mais on aperçoit une petite mèche de ses cheveux. Elle est visiblement retenue par un mollah, mais elle se défend. D'une main, elle a saisi la longue barbe du mollah. De l'autre, elle tient fermement une paire de ciseaux. Et on devine ce qu'elle va faire. Le titre Plus d'un mois après le début de la contestation, le pouvoir des mollahs semble fragilisé. La peur a changé de camp. Et après, l'Hebdo a choisi de laisser s'exprimer presque exclusivement la presse iranienne indépendante. Dans un dossier de 8 pages, ils déclinent leur vision de cet « après ». Claire Carrard, dans son édito, précise « Les médias indépendants iraniens sont pour la plupart installés à l'étranger, comme Zeitouns, un webzine fondé aux États-Unis en février 2016. Independent Persian, un média persanophone qui relève du journal britannique The Independent. Iran Wire et Iran International. J'espère que vous avez admiré ma prononciation, que j'ai beaucoup travaillé pour vous. Ces médias d'opposition sont installés à Londres. Autre sujet d'actualité, c'est l'automne et peut-être aimez-vous vous balader en forêt pour cueillir des champignons. Un article du Times nous apprend que tous les champignons sont magiques. On en sait encore peu sur ces organismes qui forment un règne à part. Certains pourraient être de précieux alliés dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est ce qu'étudie la biologiste Toby Kears. Cette femme de 45 ans cherche à percer les secrets d'un univers méconnu et vaste, celui des champignons souterrains. Elle explique... Les mycorhizes sont d'importants puits de carbone mondiaux. C'est un peu comme d'étudier le métabolisme de la Terre, explique-t-elle. Pour le moment, on se préoccupe essentiellement de ce qui se trouve au-dessus de soi et on n'a donc qu'un tableau partiel de la situation. Et c'est passionnant. Encore un peu de science. On relève la tête et on regarde le ciel en se posant cette question. Et si le Big Bang n'avait jamais eu lieu ? C'est le titre de l'article d'Aaretz de Tel Aviv. Grâce à ses instruments dernier cri, le télescope spatial James Webb tente de repérer le point d'où l'univers aurait surgi. Problème, s'il s'agit de la théorie dominante, le Big Bang n'est pas le seul modèle possible pour expliquer notre univers qui pourrait bien ne pas avoir d'origine. Mais oui, c'est à lire en page 54.
Bon, je vois que la lecture de Courrier International t'a redonné le sourire. Et il se trouve que l'horoscope de Rob Bresny, trouvé dans ses pages, est dédié au scorpion. Et tu es scorpion, Arlette. Alors que te conseille Rob Bresny ?
Scorpion, tes penchants naturels te poussent d'une part à développer et déployer ta subtile et fervente créativité et d'autre part à t'immerger dans le néant de sombres abysses pour y puiser des trésors insoupçonnés. Il arrive que tu puisses exercer simultanément ces deux talents qui se complètent et se nourrissent mutuellement. Mais il peut également arriver qu'en lieu et place d'un vaste néant, tu trouves dans les sombres abysses une oasis luxuriante qui stimule ta subtile et fervente créativité. Et si j'en crois les astres, c'est précisément ce qui risque de t'arriver bientôt.
Campus Bordeaux 88.1.